t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous tenir compagnie sur la fréquence de la paix, Radio Okapi. Le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la population. Cette année, le thème retenu est planification familiale, autonomisation des populations et développement des nations. Les prévisions en matière des populations indiquent qu'à l'horizon 2050, la République démocratique du Congo sera peuplée de 147,5 millions d'habitants, soit le double de la population actuelle. Au regard de ces prévisions, certains observateurs estiment qu'il faut relancer les débats sur le travail que font le Programme national de planification familiale et ses partenaires nationaux et internationaux. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69. Pour vos interventions en direct, les débats se déroulent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Héritier Sigakala est à la mise en onde de ce magazine, réalisé et coordonné par J.R. Lungembo. Et Pierrot et la Meji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population que Parole aux auditeurs se penche sur la problématique de la démographie en RDC. 147,5 millions d'habitants d'ici 2050 selon les prévisions. Certains observateurs et beaucoup d'autres estiment que pour faire face à cette de la gestion de cette démographie, il faut relancer et renforcer le travail de la planification familiale. Et c'est la question, la préoccupation au centre de nos échanges. Et pour en parler, nous avons associé dans cet échange Dr Théophile Boukongo, chargé de programme des planifications familiales au Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Dr Théophile Boukongo, bonjour.
Bonjour, j'en profite aussi pour saluer tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous en direct dans ces magazines. Est-ce que, docteur, l'augmentation de la population est-elle un problème ou un défi?
Les deux, dans le sens que un défi parce qu'il faut arriver à répondre aux besoins de toute cette population-là. Mm-hmm. C'est un défi pour le développement. Et aussi un problème parce que ça peut répondre à la consommation même de ressources naturelles. Et puis, pour pouvoir répondre aux besoins de cette population si nombreuse. Mmh. Voilà.
Alors, ça dit que la question de la gestion de la démographie ou même de la planification familiale, on peut dire que c'est une question transversale.
Vraiment transversale. Ça implique beaucoup de ministères. Par exemple, ici en RDC, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, le ministère du Genre, famille et enfants, en tout cas beaucoup de ministères, les ministères de la jeunesse. Donc c'est vraiment une question transversale.
Ok. Et on met plus l'accent sur la question de la planification familiale. Quelles ont été les réalisations aujourd'hui en RDC quand vous regardez la courbe plutôt du travail de sensibilisation en termes de planification familiale? Y a-t-il suffisamment d'avancées en RDC?
Bon, malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Quand on prend par exemple 2007, selon les dettes, la prévalence contraceptive moderne était autour de 6%. Et quand on a refait l'étude en 2013, on a trouvé que c'était 8%. Donc, on n'a pas tellement fait beaucoup de progrès quant à l'utilisation des services par les populations congolaises.
Mmh. Et quels sont les pesanteurs alors qui font qu'on ne puisse pas enregistrer autant de progrès?
Bon, les pesanteurs se situent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau de l'offre. Donc, la disponibilité des services au niveau des zones de santé. Donc, il y a plusieurs zones de santé qui n'ont pas encore à intégrer le service de planification familiale. Donc, selon nos estimations, jusqu'en 2017, sur les 516 zones de santé, il y aura à peu près 328 zones de santé qui ont intégré la PEF. Donc, il y a plus de 180 qui n'ont pas encore intégré la PEF par manque de moyens, parce qu'il faut arriver à former les prestataires. Il faut arriver aussi à donner des contraceptifs. Il faut arriver à sensibiliser la population, ce que vous appelez la création de la demande. Mmh. Donc ça, c'est au niveau de l'offre. Il y a aussi des pesanteurs par rapport à notre propre culture. Parce qu'il y a des gens qui pensent que avoir beaucoup d'enfants, c'est une richesse. Parfois aussi, il y a aussi au degré de décision des femmes de pouvoir aller utiliser les services sans que le mari ou les autres membres de la famille puissent autoriser. Donc il y a aussi des problèmes par rapport au financement. Donc il faut arriver à trouver l'argent pour arriver à financer l'achat des contraceptifs, à financer aussi l'offre des services sur le terrain. Et l'autre problème, c'est au niveau des politiques. Il y a par exemple au niveau de populations moins âgées, les jeunes, par exemple, il y a toujours des politiques qui font que parfois ne sont pas habilités à aller demander les services sans l'autorisation des parents. Vous voyez toutes ces pesanteurs-là qu'il faut que n'a pas retiré beaucoup de progrès.
Mais on sait qu'il y a eu des débats autour d'une loi spécifique sur la santé de la reproduction. Est-ce que cela a-t-il eu de l'impact quand même dans, que ce soit au niveau de la définition de la politique, au niveau des différentes interventions?
Ouais, en fait, cette discussion a eu, disons, la loi a eu le bénéfice de l'avantage de susciter les débats, donc les débats au niveau du Parlement. Mais la loi n'a pas encore été votée. Néanmoins, il y a quand même un programme au niveau du ministère de la Santé, programme national de santé de l'adolescent, qui s'efforce d'offrir les services à cette catégorie de la population, donc les adolescents. Mais il faut quand même un acte légal qui autorise les prestataires à bien offrir les services sans crainte de réunir certaines occupées, les empêcher d'offrir.
Mais aujourd'hui, Quelle est la part, en termes de degré d'intervention, nous avons le ministère de la Santé avec le programme, nous avons les partenaires comme l'UNFPA et d'autres organismes. Quel est le degré d'intervention à chaque niveau et degré de responsabilité dans ces domaines de planification familiale?
Bon, la responsabilité première revient au gouvernement, mais je pense que les partenaires viennent en appui au gouvernement. Et aujourd'hui, en matière de planification familiale, il y a beaucoup de partenaires qui sont dans le pays, grâce à l'engagement que le pays a pris en 2013 lors de la conférence qui avait lieu à Addis Abeba. Mais dans le pays, comme vous savez, depuis toujours, le plus grand partenaire en matière de planification familiale, c'est l'UNFPA et l'USAID. Et nous sommes toujours là pour appuyer le gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre le devant. Je pense que les efforts sont faits. Il y a eu prise de conscience à tous les niveaux, même au niveau du gouvernement. Et nous pensons que prochainement, on pourra avoir des interventions beaucoup plus vastes pour atteindre beaucoup de populations.
Voilà, on vous garde en ligne, docteur. On va cheminer avec vous et l'ensemble des auditeurs qui voudraient bien intervenir dans cet échange consacré, bien sûr, à la gestion de la population face à la démographie galopante. La question de la planification familiale, c'est au 09 97 06 49 69. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Mais les débats se déroulent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Paroles aux Auditeurs.
Maître Gaston, merci d'être avec nous. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux Auditeurs.
Merci Pierrot, je vous salue aussi.
Voilà, on vous écoute.
Bon, j'allais donner un petit exercice à d'ailleurs tout ce monde qui vont participer, si vous voulez, de nous situer, si c'est une femme ou un homme, il a quel âge, il a combien d'enfants et puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bon, succinctement, je vais vous dire que personnellement, moi, je peux avoir pour le moment 32 ans, mais je n'ai aucun enfant. Je suis un jeune avocat qui se bat pour assumer mes responsabilités dans l'avenir. Mais je pense que cette notion-là, les Congolais n'en ont pas. Les Congolais, juste, c'est pour les besoins sexuels qu'ils arrivent à appeler au monde des enfants qui ne sont pas en mesure de pouvoir aider. Moi, je suis pas contre la sexualité avant le mariage ou avant l'âge, mais il faut que cette sexualité soit protégée. Bon, comme c'est pas le cas chez nous, la sexualité, les conséquences, ce sont les enfants, la sexualité, les conséquences, ce sont les maladies. Nous devons normalement éduquer la population. Là, j'en appelle à la maturité de chacun de nous de pouvoir se maîtriser sur ces domaines-là. S'il n'y a pas de maîtrise, si on n'utilise pas des techniques modernes, nous vivrons avec les gens qui ne seront pas utiles dans la société. À quoi sert d'appeler plus de 10 personnes, plus de 5 personnes pour que ces gens-là viennent souffrir pour rien ici dans cette terre? Et surtout que nous savons que le gouvernement, les associations sont des missionnaires, ne visent pas l'intérêt sociale. C'est vraiment très important que nous qui appelons ces gens-là au monde, qu'on puisse être conscient, qu'on puisse vraiment s'interroger, s'éduquer soi-même de telle sorte que de pareilles choses ne puissent plus arriver. Mm-hmm. Moi, je suis vraiment contre, les gens qui considèrent les enfants comme une richesse. Les enfants ne sont pas une richesse. Les enfants qui sont considérés comme une richesse, ce sont des enfants qui sont transformés, qui sont éduqués. Mais vous allez constater que la majorité, à mon avis, la majorité des Congolais ne sont pas éduqués dans le vrai sens du mot. C'est pour cela que j'en appelle d'abord à la conscience de ceux qui se livrent à des pratiques sexuelles, de pouvoir s'éduquer et agir en maturité. Et puis aux parents qui ont déjà des enfants, moi je pense que c'est très important d'assumer, qu'ils assument leurs responsabilités. Au gouvernement et aux associations qui devraient normalement accompagner la population, d'agir en responsable au lieu de se contenter des miettes, des choses égoïstes. Il faut vraiment travailler sur la population congolaise qui, à mon avis, jusque-là, n'a pas une bonne formation, n'est pas vraiment éduquée. Mmh. Et sans cela, nous ne vivons que des cris d'alarme où les gens imputent des responsabilités à d'autres personnes, surtout à ceux qui sont au pouvoir. Vraiment, il faut s'éduquer parce que c'est pas facile. Il faut voir comment est-ce que les Congolais sont plus attirants sur l'aspect sexuel. Hein. Ça, vraiment, c'est notre faiblesse. Surtout, essayer de faire une publication même sur Facebook, la publication qui a trait avec le sexe, vous verrez comment est-ce que les Congolais, les musiciens qui ont actuellement sorti des disques, des vidéos qui ont trait avec les pornographies, vous voyez comment est-ce que les gens s'intéressent à ça. Hein. Mais une publication des radios Kapi qui parle de la vie, des choses utiles, paix des gens. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut changer cette tendance-là. Sinon, c'est très dommage pour les Africains, surtout merci. Les Noirs.
Merci beaucoup. Oui. Vous estimez, Maître Gaston, que c'est une question d'abord des responsabilités et des consciences. Responsabilité en termes de sexualité, mais conscience aussi en termes des décisions qui doivent être prises. Et comme l'a dit notre invité, c'est une question transversale. Vous souhaitez que ça soit de la responsabilité individuelle, mais de la responsabilité au niveau de la communauté pour savoir quel type de société nous voulons avoir et les enfants que nous voulons avoir. Qu'est-ce que nous voulons faire de ces enfants? Merci beaucoup, Maître Gaston. On reste à Kinshasa avec vous, ingénieur Valérie. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à toute l'équipe des auditeurs de la radio Capi.
Et j'ai aimé ce que Maître Gaston a dit, la question des responsabilités et des consciences. On vous écoute.
Oui, oui, Maître Gaston a raison, il y a un problème de responsabilité. D'abord, vous savez que les concepts de la croissance démographique est un point de départ pour la dissertation, la projection de l'avenir dans chaque pays. Demain, si nous savons déjà que nous serons au nombre de temps, c'est la matière qui nous est donnée pour que nous puissions nous dire combien d'écoles doit-on avoir demain, combien d'hôpitaux doit-on avoir demain, quels sont les espaces que nous devons prévoir, comment y accéder, ainsi de suite. Alors, Maître Gaston a raison que c'est un problème aussi des responsabilités civiles, mais tout comme le docteur l'a dit, que la question est vraiment transversale, il faudrait impliquer tous les ministères. Et moi, je dirais qu'il faudrait même qu'on commence à enseigner ça aux élèves à l'école secondaire. C'est normal que les élèves grandissent déjà avec cet esprit, tel que moi, quand je vais grandir, il faudrait quand même que j'adapte mes naissances en fonction de mes responsabilités. La conjoncture étant celle-ci, voilà comment nous pouvons aller. Nous ne pouvons pas condamner les anciennes personnes, disons nos aînés, mais aussi ils nous avaient mis beaucoup au monde avec raison par rapport au contexte d'antan. Par exemple, il y avait des guerres, des épidémies qui pouvaient décimer les gens, et avec tout ça, quelqu'un qui avait 2-3 enfants, il s'est retrouvé sans enfants. Il fallait en avoir beaucoup. Comme ça, même s'il en perdait 5, il peut rester aussi avec 12. Alors, mais aujourd'hui, le contexte a changé. C'est pourquoi il va falloir que l'on implique tout le monde. Et je regrette même ce que font les femmes elles-mêmes. Pierrot. Dans un pays où la planification familiale n'a pas encore atteint un grand nombre de femmes, vous trouvez que les femmes se battent beaucoup plus pour des concepts comme parité. Quand il s'agit de la parité, on paralyse toutes les chaînes. Mais la parité concerne une minorité de femmes qui veulent accéder au pouvoir, qui veulent faire la politique. Mais quant à dire, par exemple, la planification familiale, ce qui concerne toutes les femmes, là, on n'en parle pas, c'est aussi la faiblesse des femmes. Moi, je pense que même les ONG à caractère de défense des droits de l'homme, des droits de l'homme pour en ce qui concerne la femme, doivent aussi s'impliquer. Elles ne doivent pas seulement trop se battre pour le pouvoir, non. Alors, je me tourne maintenant du côté de l'État. Puisque malgré les efforts que nous allons faire, nous n'allons pas atteindre toujours une forte diminution, c'est aussi l'occasion pour l'État congolais de se dire, puisque en 2050 nous serons autant, voilà comment nous devons nous comporter. Je prends maintenant des chiffres clairs. À l'indépendance, nous étions 14 millions. Aujourd'hui, 57 ans plus tard, nous sommes déjà autour des 85 millions, donc ça fait 6 fois plus que à l'indépendance. Et en 2050, quand on nous parle de 180, tout ça, ça sera 10 fois plus, disons 145 millions, 10 fois plus qu'à l'indépendance, qu'à l'époque de l'indépendance. Vous comprenez que déjà, si nous ne projetons pas des organisations sérieuses dans les domaines de l'administration, du droit, de l'enseignement, pourquoi pas même du travail, nous allons nous bloquer. Voilà qu'aujourd'hui, avec un coefficient de 6 par rapport au jour de l'indépendance, nous n'avons même pas d'entreprise. À l'époque de l'indépendance, quelle était la vie? Parce que ce qui est famille marche toujours de pair avec le travail. Et vous remarquerez que ce sont les deux premières institutions que Dieu avait créées. Adam a d'abord travaillé, ensuite il s'est marié. Alors, si le mariage, les familles, sont, si leurs concepts sont abordés sans aborder le travail, nous sommes à côté. Voilà que les entreprises qu'on nous a laissées par les Belges en 60. Aujourd'hui, que nous sommes 6 fois plus que ça, nous, même ces entreprises n'existent pas. Dernièrement, nous avons parlé de la régie des eaux, que Mobutu avait même laissé encore viable. Il faudrait que nous mettions du sérieux dans la projection des entreprises afin que ces enfants-là qui viendront puissent être insérés dans les concerts des nations. Parce que même éduquer quelqu'un, c'est quoi? C'est le préparer, c'est l'insérer dans la société à venir. Mais comment se fait-il qu'un pays peut être déjà au courant que dans, en 2050, la population sera 10 fois plus que celle qu'on pouvait avoir à l'indépendance, mais entre-temps, on ne prépare même pas les infrastructures, on ne prépare même pas les cadres, même pas une administration. Non, ce n'est pas correct. Nous avons déjà la matière et il faudrait que nous commencions à travailler en amont et à temps. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Vous estimez que, comme le docteur l'a dit en introduction de cette émission, non seulement la démographie galopante peut être un problème, mais aussi un défi. Mais là, si on considère que c'est un défi, c'est là qu'on devrait déjà commencer à faire des projections. C'est le rôle aussi du ministère du Plan, c'est de pouvoir aussi faire des projections, savoir que si nous dans 50 ans, quel type de société nous voulons voir, combien d'écoles, combien d'hôpitaux, et ces enfants qui vont naître, où est-ce qu'ils vont étudier, quelles sont les entreprises qu'on pourrait créer pour cette période. Et là, c'est dans le cadre de la considération de la démographie comme un défi. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Le Prince, vous êtes... voilà, c'est Olivier qui est à Gbadolité. Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour, Olivier. Olivier, bonjour. Voilà, des petits soucis avec Olivier qui apparemment est distrait sur sa ligne. Nous retournons ici à Kinshasa avec vous, Prince. Bonjour, Prince.
Journaliste.
On vous écoute, Prince.
Oui. Le problème de la planification familiale est un problème très sensible qui touche presque toutes les couches. Mais le vrai du problème ici, mettre au monde est un problème de responsabilité. Je rejoins le premier intervenant. Or, celui qui doit mettre au monde doit être un responsable. Ce n'est pas n'importe qui doit donner des enfants qu'il ne saura pas prendre en charge. Nous avions fait un constat malheureux lorsque nous nous sommes rendus au lieu des élections de l'enrôlement. Vous voyez qu'on a donné la priorité aux mères des enfants. Mais qui sont ces mères des enfants? Des petites fillettes de 16 ans, de 17 ans. Ils ont formé une très longue ligne là. On le respecte que ce sont les mères des enfants qu'on doit enrôler. Oui, oui, ce sont les mères des enfants. Mais des irresponsables. Donc si on doit faire l'histoire de planification familiale, on ne doit pas regarder seulement d'abord le couple, qui parfois sont des responsables, mais ces petits-enfants. qui marchent avec des enfants en cours de route, qui dorment avec leurs bébés au terrain dans notre stade là, du 20 mai, vous trouverez des petites fillettes avec des enfants là. Ils ramassent des grossesses parties par là, des jeunes garçons qui engrossent des filles et qui s'enfuient comme ça, ils laissent ses enfants comme ça. Moi, je pense que l'augmentation du nombre d'enfants se fait par des grossesses incontrôlées que les associations qui sont concernées et le gouvernement doivent se déverser là pour chercher comment, d'un côté, à sensibiliser les gens, surtout la jeunesse, et aussi à mettre certains garde-fous auxquels n'importe qui ne peut pas se présenter comme un maire de famille avec deux, trois enfants, pendant qu'elle n'a pas une maison, elle n'a pas de quoi se nourrir elle-même. Tout ça augmente maintenant le nombre de gens, ça augmente les difficultés, pendant que ces enfants-là ne pouvaient pas constituer source de problème, parce qu'eux-mêmes sont déjà un problème dans la famille. Donc la pensée ici est que le gouvernement d'un côté, les associations concernées de l'autre, puissent chercher deux moyens. Le premier moyen, c'est la sensibilisation, l'éducation. Comme l'un de mes prédécesseurs a parlé,
exact,
au sujet des écoles, enseigner ça aux écoles. Et deuxièmement, on doit mettre une politique qui doit amener les gens à ne pas mettre au monde comme ils veulent, surtout les petits-enfants. Voilà du moins notre intervention.
Merci beaucoup, Prince. Merci pour toutes ces précisions. D'ailleurs, quand vous avez évoqué les cas des enfants qui sont mis au monde par les autres qui sont déjà dans la rue, il y a quelques années, nous avons eu à faire un débat très, très élaboré où les ONG s'inquiétaient du nombre croissant des enfants qui sont mis au monde par les autres qui sont déjà dans la rue. C'est une grande préoccupation. Et vous estimez que le programme devait être aussi plus dirigé vers ces jeunes qui sont abandonnés peut-être à eux-mêmes dans une sexualité non responsable. Pourquoi pas aussi aller dans les milieux de la jeunesse, des associations, y compris des écoles. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'internautes proposent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, comme John Luessa, John Moussili et Dieudonné Mouembo, qui est à Lubumbashi. Lui insiste beaucoup sur la question de la sensibilisation, mais aussi la question de la conception socio-religieuse du problème de la planification familiale. Il faut associer tous ces milieux-là et tous ces leaders dans ces différents domaines d'activité. Merci beaucoup, Prince. On retourne à Agbadolité, je crois bien. Olivier, cette fois-ci, c'est bon avec vous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour également aussi à tous les auditeurs de la radio Capé.
On vous écoute, Olivier.
Mais en tout cas, monsieur Pierrot, c'est que la gestion de la population face à la démographie est un problème vraiment à prendre très au sérieux. Pourquoi ? Parce que si on ne maîtrise pas, on n'arrive pas à maîtriser la gestion de la démographie dans notre pays, ça pose un problème. Aujourd'hui, la situation de la croissance démographique galopante, c'est une situation comme nous, dans notre cas de figure, on va le considérer comme un défi total. Pourquoi si je dis ça ? Parce que on trouve premièrement que la responsabilité est partagée. Il y a d'une part la responsabilité des parents et de l'autre part, il y a la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, cette situation de la gestion de la population va de plus en plus mal. Si nous prenons dans le cadre de la responsabilité parentale, nous voyons qu'il y a un problème de mentalité. Pourquoi je dis ça ? Parce que, premièrement, ici dans notre pays, nous les Africains d'une manière générale, et les Congolais en particulier, nous considérons que c'est comme si des enfants c'est une richesse. Or, il y a un problème sérieux. On peut prendre des enfants dans l'hypothèse de richesse, mais aujourd'hui, on est incapable même de les scolariser. Aujourd'hui, on annonce même aussi la responsabilité de l'État pour dire, bon, nous sommes incapables puisque nous n'avons pas de l'emploi pour pouvoir se bénir aux besoins de nos enfants. Les parents aussi, d'une part, nous voyons que les parents aussi lâchent leurs responsabilités tout en déchargeant du côté de l'État. Or, les parents aussi devaient faire le nécessaire possible pour essayer d'encadrer leurs enfants. Nous voyons que les parents aussi ont perdu leur sens de responsabilité puisque les parents eux-mêmes aussi sont des agents causales. Ils laissent leurs enfants au mariage dans un bas âge pour leur permettre au moins d'avoir de moyens solides. Vous voyez que ça, c'est aussi un problème sérieux. Du côté de la responsabilité des parents, ils ont perdu leur sens des responsabilités. Mais revenons maintenant du côté aussi de la responsabilité de l'État. Il y a aussi un problème d'organisation. Pour moi, je le résume même en un problème de la volonté politique. Si peut-être nous avons dit il y a croissance. Il y a maintenant un défi. Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, ça pose un problème même du côté de la sensibilisation de la population. Quitte à l'État, quitte aux Indiens, de pouvoir sensibiliser la population, de l'inculquer au moins une mentalité. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons aussi de développement du côté de l'Europe, ainsi de suite. Mais les Européens ont une certaine mentalité. Vous allez voir l'exemple, par exemple, Obama, qui était un président des États-Unis. Il a que 2 enfants. Vous allez voir à ce niveau. Mais nous aussi, les Congolais, on n'a rien, mais nous préférons plus avoir tant d'enfants. C'est un problème sérieux.
C'est à
l'État aujourd'hui de pouvoir sensibiliser aussi la population.
Olivier...
C'est aussi à l'État de pouvoir prendre aussi le soin, au moins des soins primaires de santé de la population, au moins aussi de leur fournir d'emplois, puisque si la population reste de temps en temps chômage, ça pose aussi un problème. Puisque la jeunesse, quand ils grandissent, quand ils finissent les études, vous allez voir qu'un licencié qui devient un taxman, un licencié qui devient un vendeur de crédit au coin de la rue, cette situation de la situation démographique galopante, vous allez voir que ça sert à rien dans notre contrée.
Voilà.
C'est au moins de rappeler la conscience du côté de la population.
Voilà, merci beaucoup, Olivier.
Les responsabilités,
voilà.
Ça peut faciliter.
Merci beaucoup, Olivier. Vous avez estimé qu'il y a la question d'abord de la responsabilité parentale, la responsabilité de l'État. Mais vous avez soulevé la question des mariages précoces. Rappelons quand même que plusieurs personnes qui ont estimé que dans le cadre de la lutte contre les mariages précoces, il faut aussi privilégier la scolarisation. Parce que quand il y a l'absence de la scolarisation dans le milieu rural, il y a aussi cette tendance à pouvoir laisser les filles aller au mariage trop jeune. Ce sont des questions qui doivent être abordées d'une manière froide. Merci Olivier. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct.
Sont pour son jeune. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition, c'est dans 100% jeune. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi. Une émission de jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. Tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30. Le lundi à 9h15.
Voilà, nous revenons à vous, docteur Théophile Boukongo. Je rappelle que vous êtes le chargé de programme et planification familiale au Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés autour de cette question, chacun avec son point de vue, mais qui aussi converge à un certain moment. Quelle est votre réaction?
Bon, en fait, je trouve que les intervenants ont donné des points de vue qui correspondent à la réalité telle que nous la vivons. À RDC. Et je pense que M. Gaston a pensé que lui, je crois qu'il est encore jeune, il a fini ses études, mais n'est pas encore marié. C'est justement le parcours qu'on voudrait que les jeunes puissent adopter, parce que quand, en plus que le jeune est scolarisé, donc, il reste longtemps à l'école, et il va se marier tardivement, et il aura moins d'enfants. Mais les choses qu'il faudrait aussi un peu modérer, c'est au niveau, par exemple, de la sexualité qu'il a déploré. Donc la sexualité telle que ça se vient là-bas, nous avons la responsabilité soit au niveau des parents, au niveau de l'État et au niveau même des enfants eux-mêmes, mais nous devons arriver à faciliter l'accès à la contraception aux jeunes qui sont sexuellement actifs, puisqu'on peut faire la sexualité sans nécessairement tomber enceinte, puisqu'il a justement parlé des grossesses, ce sont les grossesses non désirées et non voulues. Donc on peut les éviter en recourant à la contraception. Le deuxième intervenant, je pense que...
Ingénieur Valérie, oui.
Pardon?
Ingénieur Valérie.
Oui, ingénieur Valérie. Je pense qu'il a bien dit, la planification familiale, c'est l'affaire de tous. Hein. Donc je pense que non seulement des femmes, mais surtout les hommes, puisque vous savez que dans nos familles africaines, ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Donc il faut que les hommes s'impliquent beaucoup. Dans beaucoup de pays, maintenant, on insiste surtout sur l'engagement des hommes. Donc, il faut aussi que les hommes s'impliquent beaucoup en ce qui concerne la planification familiale. Je pense que pour notre troisième intervention, c'est Prince.
Oui.
Donc, il a bien dit que c'était une question très sensible. Elle élève justement. Donc, mais l'augmentation du nombre d'enfants par femme, elle vous inquiète. On ne peut pas obliger les gens. On ne peut pas prendre une politique disant que nous limitons le nombre d'enfants par par femme ou bien par couple, ça devient comme une imposition, puisque la planification, c'est d'abord volontaire. Ce que nous devons faire, c'est continuer à éduquer la population, répondre aux besoins des gens qui veulent utiliser les services. Il y en a qui veulent espacer les naissances, il y en a qui veulent limiter, n'aiment plus avoir des enfants, qu'on mette à leur disposition les moyens pour ne pas tomber enceinte. Mais on ne peut pas prendre une décision de dire que non, nous limitons le nombre d'enfants. Par exemple, là, ça devient quelque chose qui ne cadre plus dans le cadre de la planification familiale, puis c'est une intervention basée sur les droits humains. Donc, il faut que la population puisse agir volontairement. Quant à M. Olivier, je crois qu'il a abordé dans le même sens. Donc, il faut prendre au sérieux le problème de la gestion de la démographie. Donc, la responsabilité de tout le monde, la responsabilité des parents, la responsabilité de l'État, la responsabilité des communautés, tout le monde a une certaine responsabilité. Mais, pour trouver la solution, ce que nous devons faire, c'est que rendons les couples autonomes, permettons aux couples de pouvoir avoir accès aux services et rendons les services disponibles et informons les gens pour que les gens aient accès aux services. Et plus que les services de planification familiale donc, sont utilisés, moins les gens auront les enfants. Même ceux qui sont en brousse, quand on leur pose des questions, est-ce que vous avez voulu cette grossesse? Ils disent que non, la grossesse est venue, mais on ne l'a pas voulu. Parce que la plupart ont des grossesses non désirées parce qu'ils n'ont pas eu accès aux services, mais parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Voilà un peu ce qu'il faudrait dire comme intervention dans un premier temps.
Mais est-ce que dans vos interventions, ne faudrait-il pas aujourd'hui privilégier aussi les milieux ruraux, parce que vous l'avez dit, on sait déjà que dans les milieux urbains, les gens ont accès à l'information, il y a autant de gens qui ont un niveau d'instruction quand même assez élevé, et quand on s'éloigne de plus en plus, les problèmes se posent, et c'est dans ces milieux ruraux où il arrive des fois qu'on n'ait pas de prestataires bien formés, qu'on n'ait pas l'accès à l'information, l'accès à toutes les autres méthodes de contraception. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les travails de vos interventions sur le terrain, y a-t-il moyen d'avoir des interventions ciblées en fonction de milieux?
C'est vrai que quand même, quand vous voyez le nombre d'enfants par femme, les femmes en milieu urbain ont moins d'enfants que les femmes en milieu rural. C'est vrai aussi que les interventions sont surtout concentrées dans les milieux urbains. Mais ce que nous faisons comme effort, parce que le pays est subdivisé en 516 zones de santé. Il y a les zones de santé qui sont en milieu urbain, il y a les zones de santé qui sont en milieu rural. Donc on doit tout faire pour que toutes les zones de santé puissent arriver à offrir le service de planification familiale. Donc il faut une couverture universelle. Partout où on voit, on doit trouver les services de planification familiale, une accessibilité accrue, de sorte que la personne soit en milieu rural ou en milieu urbain, que la personne puisse avoir accès aux services de planification familiale. Mais il faut aussi voir aussi que dans le milieu rural, c'est là où les traditions sont très fortes. Ici, les gens, avec la scolarisation, les gens ont essayé de se moderniser. Là, les traditions sont très fortes. Il faut arriver à responsabiliser davantage le chef de communauté, les chefs de village et les chefs coutumiers, les responsabiliser davantage pour que ils puissent aussi participer à l'éducation des populations pour que les gens puissent avoir accès aux services.
Mais aujourd'hui, on sait, docteur, que les produits de contraception peuvent être délivrés, comme vous l'avez dit, les services, on peut les trouver dans les structures de santé. Mais rappelons quand même qu'il y a aussi assez d'automédication, entre guillemets, dans ces domaines où les gens peuvent peut-être aller dans des pharmacies, demander conseil ou acheter des produits. Est-ce qu'il faudrait-il aujourd'hui des programmes stricts de canalisation? Parce que quand quelqu'un a déjà est allé se procurer, par exemple, des produits de contraception auprès d'un voisin, dans une pharmacie à côté, et qu'il y ait, par exemple, des effets secondaires ou bien d'autres conséquences, les gens ont tendance à généraliser cela dans le débat et dans l'opinion. Est-ce qu'il y a moyen de faire ces travails ciblés pour orienter les gens uniquement dans les structures où ils peuvent être pris en charge d'une manière plus efficace?
Oui, c'est le travail que je suis demandé de faire, parce que là, c'est les gens de pharmacie, nous les appelons généralement les secteurs privés. Nous devons impliquer les secteurs privés dans l'offre de services. On a déjà mené des enquêtes sur ça, c'est ici, pour que les gens qui sont dans les pharmacies puissent aussi être formés pour pouvoir faire le counseling. Quand la personne vient, on ne peut pas la renvoyer, mais on doit lui donner des informations exactes et lui donner non seulement sur les avantages, les effets bénéfiques du produit, et aussi sur les effets secondaires qui pourraient survenir, et qu'est-ce que la personne doit faire en cas d'effets secondaires. Donc, puisque la planification dans l'offre, il n'y a pas que les services publics. Nous devons aussi impliquer les services privés. Donc, c'est le structure médical privé. Donc, il faut arriver à faire une couverture beaucoup plus étendue. C'est une question que nous sommes d'aborder. Il n'y a pas longtemps, on a une conférence, on est venu à Kinshasa pour impliquer davantage le secteur privé, pour les informer, former les prestataires, pour qu'ils soient en mesure de bien communiquer, de bien interagir avec les gens qui passent là pour acheter les contraceptifs.
Voilà, on va écouter Ifasso qui est ici à Kinshasa, mais en attendant, nous faisons un tour sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Yves Kachosi, depuis Kampala, en Ouganda, ses prévisions pourront être prometteuses pour notre pays, car une population trop nombreuse est un atout que la politique doit capitaliser pour l'essor, la population étant un instrument pour le développement. Rien à craindre, car nous avons un vaste territoire pour la contenir. Et le grand problème aujourd'hui, c'est de savoir si nos politiques sont en mesure de mettre en place des programmes qui pourront s'occuper de cette population et voir les potentialités que nous avons. Alors, Ifasso, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur les antennes.
Oui, bonjour, Radio Capi, c'est Diego Ifasso, je suis pas en Kinshasa, je suis en Bandaka.
Ah, vous êtes en Bandaka, Ifasso, merci. Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, monsieur, le sujet, c'est trop intéressant. Je suis vraiment d'avis avec les enquêteurs. Vous voyez, le problème des surpeuplements est un problème de santé, mais aussi un problème de l'environnement. Dans d'autres cieux, le pays met en place une équipe de personnes qui vont sensibiliser porte à porte. Et vous voyez que si la sensibilisation n'est pas forte, on peut, dans d'autres milieux plus reculés, on peut avoir des personnes comme nous sommes dans un pays plus pauvre. Il n'y a pas le travail, la seule distraction, c'est le sexe. Et maintenant même, cette pauvreté peut amener aux gens aux difficultés de ne plus scolariser les enfants. Et lorsque l'enfant n'est pas scolarisé, l'enfant n'est pas informé à des processus de planification familiale, il ne sait pas maîtriser ses dates, il peut se livrer à n'importe quand, à n'importe comment, et il attrape directement la grossesse. L'autre problème, c'est que ici chez nous, surtout dans des milieux ruraux, les gens ne savent pas observer les écarts entre les enfants. Vous voyez, pour une famille bien planifiée, l'écart entre deux enfants prend 2 à 4 ans. Et puis, mais ici chez nous, vous pouvez voir les enfants qui ont une carte de 6 mois, etc. Et l'autre chose, c'est quoi? Les gens d'ici chez nous préfèrent surtout avoir beaucoup d'enfants. Mais dans d'autres cieux, il y a des gens peut-être qui sont plus riches, ils ne préfèrent pas avoir beaucoup d'enfants. Ils ont 2-3 enfants, mais ici, les moindres enfants par famille, si on peut faire les statistiques, c'est 6, 7, 8. Vous voyez que ça amène déjà un problème. Quand j'avais dit que c'est un problème de santé, un problème de l'environnement, c'est-à-dire au niveau de la santé, normalement, on doit prévenir. Avant d'arriver au produit de contraception, on doit d'abord prévenir. On doit prévenir comment se sensibiliser. On peut même entrer dans des porte-à-porte, surtout dans des milieux ruraux, puisque dans les milieux urbains, les gens sont moins très éveillés, ils ont assez l'Internet et ils lisent beaucoup. Mais dans les milieux ruraux, surtout, il faut sensibiliser. Mmh. Le problème de l'environnement, c'est quoi? Vous avez une population très élevée. Cette population va très mal utiliser la nature, va très mal envahir la nature, l'environnement, et puis on risque d'avoir des modifications naturelles, etc. Donc c'est tout ce que je pouvais conseiller.
Merci beaucoup. Ifasso, vous avez insisté sur le fait d'avoir des relais. On a toujours parlé en termes de, dans les domaines de la santé, des relais communautaires. C'est des gens qui peuvent aller auprès de la population pour amener l'information, sensibiliser. Mais en évoquant la question de l'environnement, vous avez rejoint l'invité, docteur, notre invité tout à l'heure, qui a dit en début d'émission que l'augmentation de la population, non seulement c'est un problème, c'est un défi, parce qu'il faut penser comment est-ce qu'il faut utiliser les ressources naturelles. C'est une question qui se pose, c'est ce que disait docteur Théophile tout à l'heure. Merci beaucoup, Ifasso. Nous retournons ici à Kinshasa. Adrien, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Adrien.
C'est un très bon sujet. Je suis vraiment intéressé parce qu'aujourd'hui, l'augmentation de la population est l'un des vecteurs de la pauvreté en Afrique, généralement, et en République démocratique du Congo. Au-delà de ce que l'invité a dit, il faut comprendre que chez nous, dans la culture africaine, surtout au village, avoir plusieurs enfants était aussi un facteur de la puissance familiale. Et vous allez vous rendre compte que nos parents, nos arrière-grands-parents, ils pouvaient se marier à plusieurs femmes et chaque femme pouvait avoir plusieurs enfants. Donc ça, c'était le premier facteur, notamment en ce qui concernait les travaux, parce que généralement, c'était les travaux champêtres. Alors, ce qui faisait qu'une femme qui a plusieurs enfants avait aussi une main-d'œuvre très importante. Alors, deuxièmement, c'était pour la force de la famille. Donc, il y avait des familles qui faisaient terreur par le nombre d'enfants, c'est-à-dire un papa qui pouvait être très fier de ne pas être inquiété parce qu'il avait plusieurs enfants. Et de l'autre part, c'était aussi la culture. Donc, vous pouvez vous imaginer, une fois je parlais avec une maman, elle ne savait pas que c'était donc être enceinte, avoir un enfant, garçon ou fille, c'était de la volonté. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui donne les enfants, bien sûr, sous réserve des croyants. Mais il y a des gens qui ne croient pas qu'aujourd'hui, que les gens peuvent se décider pour contracter une grossesse. Alors, de l'autre part, c'est aussi dans l'éducation, parce que moi, qui vous parle, j'ai déjà été l'éducateur en éducation à la vie. Mmh. Alors, il n'y a pas un programme efficace. Alors, vous allez vous rendre compte, par exemple, en ce qui concerne le contrôle des naissances, notamment les méthodes de contraception, c'est un cours qui est prévu, donc c'est une leçon qui est prévue en 5e et 6e, donc dans le degré terminal à l'école secondaire. Or, si vous regardez aujourd'hui beaucoup plus la fréquence, c'est tout au niveau des enfants qui sont en pleine adolescence. Et en adolescence, vous voyez la 2e, la 3e. Mais si vous regardez le programme d'éducation à la vie à l'école, notamment de 2e et 3e, c'est juste des programmes totalement élémentaires. Donc, ils ne cadrent pas vraiment avec l'évolution de l'enfant. C'est pourquoi Bessie Brock avait proposé que l'éducation à la vie, le programme d'éducation à la vie devrait être réadapté chaque 10 ans après. Mais aujourd'hui, nous avons un programme de 1987, le même programme qui est appliqué aujourd'hui dans le système scolaire. Donc voilà un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Adrien. L'efficacité du programme, c'est important. Ça, c'est en termes aussi de la définition des politiques sur terrain. Mais quant au programme qui doit être adapté au niveau de l'enseignement à l'école, vous estimez qu'il faut l'adapter, il faut le moderniser. Ça ne doit pas être des leçons, on peut dire, superficielles, tout comme juste simplement une information qu'on donne aux enfants, mais ça devait être plus en profondeur. Il reliait, je crois bien, la question de la pauvreté, la question de l'environnement, la question de ressources naturelles, la question des responsabilités, la question de la santé. Je crois que tout cela devait figurer dans ce programme qui doit être adressé aux enfants, pour ne pas seulement dire aux enfants de ne pas être au monde, mais montrer les pour, les contre, les avantages, les inconvénients. C'est pourquoi vous estimez qu'il faut restructurer complètement ce programme-là. Merci beaucoup, Adrien. On reste ici à Kinshasa avec vous. Alain, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Alors, un défi, un problème, tout dépend de la perception et comment, pour vous, on peut soit capitaliser ces données prévisionnelles pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à cela dans l'avenir.
Oui, bien que je partage en partie tout ce qui a été dit, je me pose la question si nous ne posons pas une mauvaise question par rapport à la situation. Nous savons tous qu'il y a une progression qui apparaît linéaire par le fait que nous considérons le taux de 3% chaque année. Mais si nous prenons le nombre d'habitants en 1960, on le compare avec les prévisions de 2050, on se rend compte qu'il y a une progression de 1% lent. Parce que nous quittons de 14 millions d'habitants à 147 millions en 100 ans, en 90 ans pratiquement. Ce qui veut dire que le taux n'a pas dépassé 2%. Et je considère que ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt un atout. Le problème, comme les autres l'ont dit, se situe plutôt au niveau de ce qu'on en fait. Mmh. Aujourd'hui, la population, l'étendue ou la densité moyenne est de 36 habitants par kilomètre carré. Ce n'est pas une fatalité, c'est plutôt une faiblesse en termes d'occupation. Mais maintenant, la difficulté, c'est au niveau de la capacité de donner des hommes des valeurs. Ce qui veut dire que notre problème doit plutôt se situer au niveau de notre capacité à mettre tous les Congolais en position d'opérer leur croissance individuelle. Parce que je considère que la pauvreté, c'est aussi un facteur favorisant aux naissances non désirables. On se rendra compte que c'est dans le milieu rural où il y a plus de pauvreté qu'il y a un taux élevé en termes de naissance. C'est aussi dans le milieu pauvre des centres-villes où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais si nous arrivons à résoudre le problème de la pauvreté, le taux va nécessairement baisser, mais aussi ça va nous permettre d'avoir une population de plus en plus jeune pour faire face aux besoins de l'économie. C'est vrai que si on prend de manière individuelle on se rendra compte qu'il y a d'autres personnes qui ont une capacité de procréation plus élevée que d'autres. Mais si on fait la sommation de tout ce qu'il y a comme situation démographique, nous ne sommes pas encore dans une situation de fatalité pour que l'on considère qu'on doit impérativement réduire le nombre de naissances au niveau global, mais plutôt au niveau individuel. Parce qu'il y a, la plupart des femmes et des hommes qui sont stériles. ce qui justifie en partie cette faiblesse. Il y a un autre élément, on ne va pas seulement se limiter en termes de notre capacité de procréation, mais aussi en termes de mouvement. Les milliards et l'exode rural, dans certains coins du pays, le pays est sous-occupé. C'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à réglementer les occupations au niveau spatial. Si on arrive à développer des industries dans des milieux ruraux, on va réduire sensiblement le taux de procréation et on va faire en sorte que nous puissions avoir le point d'équilibre. Parce que d'ici 2050, avec 145 millions d'habitants, ce n'est pas une fatalité, de mon point de vue.
Voilà. Mais Alain, si nous considérons que nos politiques ne suivent pas cette évolution démographique, c'est pourquoi à un certain moment on estime que si nous prenons l'année 2017 qui est en cours, d'ici 2015-2020, dès lors que nos politiques n'auront pas changé d'une manière aussi spectaculaire, on n'aurait pas industrialisé le milieu rural, c'est à un certain moment qu'on évoque cette question des responsabilités de ceux qui doivent, qui désirent avoir les enfants, pour pouvoir s'adapter à l'évolution actuelle de notre degré de redistribution des richesses.
Bon, moi je crois que, bien que c'est important de prendre en compte cette variable, mais la problématique se situe plutôt au niveau de la capacité de créer des richesses. Parce que notre progression est, de mon point de vue, acceptable. Avec 3% de taux de croissance, c'est acceptable. On doit plutôt faire en sorte que nous arrivions à créer suffisamment de richesses. Parce que notre pays est sous-peuplé. On ne doit pas considérer ça comme une fatalité. Le problème, comme je l'ai dit, se situe au niveau des femmes qui mettent au moins plus de 5, 6, 7. Mais en termes de manière globale, c'est un atout. On doit donner des hommes de qualité, en quoi faisant comme les autres que l'on dit. Il y a une progression, on doit envisager d'adapter notre système d'enseignement dans ce sens-là. Merci. On doit multiplier par autant le nombre d'écoles, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'emplois pour que nous arrivions à résoudre. Parce que si nous comparons par exemple notre pays par rapport au Nigeria, aujourd'hui déjà ils sont 3-4 fois plus que nous. Mais ils arrivent quand même à imposer une politique économique adaptée par rapport à leur population. Nous gaspillons nos ressources, nous ne permettons pas à la population d'en jouir et on considère que c'est cette population qui participe dans l'appauvrissement. Non, c'est plutôt le politique incohérente et contradictoires qui sont prises au niveau du gouvernement, qui ne facilitent pas la tâche à ce que nous puissions adapter notre capacité de production par rapport à notre population. Parce Merci. Que le Congo, de mon point de vue, reste sous-peuplé.
Voilà. Merci beaucoup Alain pour cette intervention sur la page Facebook Malabwe Ishingiala Séverin dit ceci: la plus grande richesse de l'homme c'est l'enfant, la plus grande richesse d'un pays c'est sa population. Si la population était un frein pour le développement de la RDC, la Chine et l'Inde n'auraient pas eu le niveau qu'ils ont aujourd'hui avec les potentialités dont dispose la RDC. 300 millions d'habitants ne valent rien. La richesse d'un pays dépend de l'efficacité de sa nation. Si les institutions de la RDC étaient animé d'une bonne volonté, on pouvait arriver à faire face à l'exploitation de nos ressources, la redistribution des richesses, et la population ne pourrait pas poser un problème. Cédric Kana, le vrai problème de croissance rapide de la population RDC est complexe et dû à plusieurs facteurs dont la seule implication du programme national de planification familiale ne saura trouver une solution durable. Les problèmes qui facilitent malheureusement les naissances en cascade sont notamment les taux élevés de la d'analphabètes, le manque d'emploi, les conceptions religieuses, culturelles, tout cela est pris dans l'ensemble. Il faudrait examiner cela d'une manière globale. Alexandre Lusamba, qui est à Chimbulu, à Bunkonde, au Kasaï central, en tant que chrétien, la planification familiale est bonne, mais à condition de valoriser des méthodes naturelles qui ne puissent pas porter atteinte à la conscience des religions. Merci aux uns et aux autres. On revient à vous, docteur Théophile Bukongo. Vous avez suivi, alors on a perdu tout à l'heure, on vient de perdre notre invité et les docteurs qu'on pourra peut-être récupérer d'un moment à l'autre pour le moment de la conclusion. Mais je rappelle encore que notre ami qui est au Kasaï central à Bunkonde disait tout à l'heure sur la page Facebook où il est que la question devait être considérée sur le plan des conceptions des consciences religieuses pour faciliter plus les méthodes naturelles dans l'idée de la contraception qui n'est pas, de la planification familiale qui n'est pas mauvaise. Mais Alain est revenu tout à l'heure pour dire qu'on ne peut pas s'alarmer, 147 millions de personnes en 2050, ce n'est pas une fatalité, mais quitte à savoir quelles sont les politiques qui nous définissons, sur quel type d'individus, quel type de richesses, quel type de politiques nous voulons définir pour pouvoir encadrer toutes ces populations. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct dans ce magazine.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Voilà, c'est presque la dernière partie de paroles aux auditeurs consacrée à la question de la planification familiale. Rappelons que le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la population. Cette année, le thème retenu est la planification familiale, autonomisation des populations et développement des nations. Les prévisions en matière de la population indiquent qu'à l'horizon 2050, la République démocratique du Congo sera peuplée de 147,5 millions d'habitants, soit le double de la population actuelle. Au regard de ces prévisions, certains observateurs estiment qu'il faut relancer les débats sur le travail que font le Programme national des planifications familiales et ses partenaires nationaux et internationaux. Qu'en pensez-vous? Plusieurs réactions sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, plusieurs intervenants qui estiment que la question doit être considérée doublement comme un problème et aussi un défi, un problème au cas où on n'a pas de politique claire définie en termes d'encadrement de la population, en termes d'exploitation de ressources, mais un défi pour dire que cela peut amener aussi le pays à penser plus développement. Et vous l'avez suivi en introduction, presque avec notre ami ingénieur Valérie qui est à Kinshasa, qui a insisté beaucoup sur le fait que le ministère du plan et tous les autres ministères devaient avoir faire déjà des prévisions pour savoir dans 50 ans quel type de société nous voulons avoir, quel type d'école, quel type d'hôpitaux, combien d'écoles. C'est que l'augmentation de la population pouvait être aussi considéré comme une base sur laquelle les pouvoirs publics devaient définir des politiques d'intervention. C'est ce qu'a dit aussi Alain, mais plusieurs estiment que la question de la planification familiale est très importante et l'invite la responsabilité individuelle, la responsabilité est communautaire. C'est-à-dire qu'en termes des choix, en termes des décisions qui sont prises par les couples, mais aussi d'une manière globale, insérer cela dans l'éducation globale des enfants. Notre ami Adrien de Kinshasa a même proposé la refonte du programme des planifications nationales, mais aussi le programme et les leçons qui sont adressées aux élèves pour pouvoir les adapter à l'évolution de la situation actuellement. Nous revenons à vous, docteur Théophile Boukongo, parce qu'on vous a perdu tout à l'heure. Juste en une minute pour conclure cet échange, on a suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion?
Ce qu'on peut retenir, c'est que il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans baisse de la fécondité. Donc la baisse de la fécondité, c'est l'élément déclencheur qui fait que le pays puisse vraiment envisager de bonnes perspectives économiques et sociales pour le bien-être de la population. Donc l'augmentation de la population telle que ça s'est fait ici à 3%, c'est que la population doit doubler tous les 23 ans. C'est un grand problème et on doit tout faire pour que nous puissions obtenir une baisse de la fécondité.
Merci.
Pour que le pays puisse vraiment se développer.
Merci beaucoup, docteur Théophile Boukongo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de programme de planification familiale au Fonds des Nations Unies pour le Développement, UNFPA. Merci à toute l'équipe qui a produit ces magazines. Gilles Lungembo était à la réalisation et la coordination, Rité Sidiakala à la mise en onde. Pierrot Elamé, je vous l'ai présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.